Le bourgeois gentilhomme, scène 2, maître d'armes, après lui avoir mis le fleuret à la main.
Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes pointant écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'œil. En garde, monsieur. En garde.
Vous avez très bien joué, monsieur Jourdain. C'était facile, cette leçon d'escrime.
Là, c'est la comédia dell'arte. Là, c'est 10 ans de carrière. Grâce à Mohand.
Félag, ça vous a replongé à l'époque où vous aviez 15-16 ans?
Oui, tout à fait. J'étais au collège et je suivais mon premier cours de théâtre chez Madame Aouche, qui était notre prof d'anglais en plus à l'époque. Mais on faisait ça en français. Hein. Et donc, je jouais le maître d'armes. On montait la pièce de Bourgeois Gentilhomme. Et à la fin de l'année, on devait donner le spectacle à la salle des fêtes de la ville de Tizi Ouzou, où j'étais à l'époque. Et j'avais tellement le trac, j'ai pas pu y aller. Je sais même pas comment ils se sont débrouillés. J'ai mis 40 ans pour retrouver Madame Aouche, ma professeure d'anglais. Et je lui ai dit, est-ce que vous vous en souvenez? Elle me dit, oui, oh, quelle catastrophe vous avez fait. On n'aurait jamais dit que vous auriez fait cette carrière.
Je vous laisse le bourgeois gentilhomme. Le maître d'armes, vous le gardez.
Merci.
Il ne faut pas essayer de trouver un sens à la mort de Marty Lachance. Il n'y en a pas. La classe, c'est un lieu, un endroit d'amitié, de travail, de tenue. Oui, de tenue. Un lieu où il y a la vie, où on consacre sa vie, où on donne sa vie. Un lieu où on jette son désespoir à toute une école.
Il faut se méfier des enfants silencieux. À un moment, ils vont se mettre à parler. Mohand est un petit garçon discret devenu bavard plus tard. Dans ces montagnes en Kabylie, il prend la parole mais souvent on lui enlève, ça se dérobe, on change sa langue. À la maison, on parle berbère, à l'école français, plus tard, l'arabe classique. Au début, il paraît que ses ancêtres sont les Gaulois. Il attend les Français au village, il a 5 ans, mais ils arrivent noirs et musulmans, ce sont les tirailleurs sénégalais. Pas évident de s'y retrouver. Il se met à lire, sa mère se plaint du poids du sac à porter. Victor Hugo, c'est lourd. Mohand Félag grandit, fête l'indépendance de l'Algérie, observe les noms dans la ville changer, on ne se donne pas rendez-vous rue Michelet, mais sur Didouche Mourad, nous sommes à El Jazair. Félag suivra l'école d'acteurs, avec des cours sur Stanislavski ou Meyerhold, ce sont les bénéfices des choix du gouvernement. Il commence à travailler, apprend à faire du théâtre d'allusion, à ruser, à contourner. Mais dans les années 90, plus tard, les spectacles mettent sa vie en danger, il part en France. 20 ans plus tard, dans la salle où il joue en ce moment à Paris, ses histoires entre la France et l'Algérie, un soir de printemps en 2017, on entend des hommes et des femmes rire et chuchoter « c'est exactement ça ». Et puis « c'est tellement ça ». Et le dire de plus en plus fort. C'est le moment où on ne peut pas s'empêcher d'acquiescer. Félag est sur scène et quelque chose d'important se joue là. Il fait entrevoir ce qu'on aurait pu réussir. Il fait apercevoir le possible, les erreurs, les échecs et un espoir. Il nous fait rire de ce dont, une heure après dans la vie, on ne rira plus du tout. C'est comme un rire de décompression qui ne dit pas son nom. On rit comme on rougit, d'une incompréhension préalable et même pas prononcée. On rit de cette situation qui a tardé parfois, ne s'être finalement pas rencontrés les uns les autres. On rit de tendresse, de désespoir aussi. Félag dit qu'il cherche à soulager la mémoire. Il fait du bien. Il répète « Vous avez raté votre colonisation, on a raté notre indépendance, on est quitte ». Chacun dans le noir se surprend à avoir envie de dire oui, lui taper dans la main et repartir à zéro. Chacun se surprend à se sentir si proche des deux côtés de la Méditerranée. Plus tard, on retourne à nos téléphones, nos alertes infos, nos nouvelles pas drôles, mais on a, seuls et tous ensemble, acquiescé le temps d'une soirée. Et on sait que c'est ça, c'est exactement ça, c'est tellement ça. Il y aura donc Félag, né dans les montagnes de Kabylie le 31 mars 1950, en France depuis plus de 20 ans, et qui dans ses spectacles réinvente avec humour des liens entre la France et l'Algérie. On peut le voir dans Blade Runner, au Théâtre du Rond-Point, à Paris jusqu'au 9 avril, et il faut y aller parce qu'il dit que c'est un adieu pour lui à ses histoires entre ces deux pays. Il y aura son ami Sami Amezian, alias le comte de Boudherbala, ancien basketteur de haut niveau, qui est en ce moment au Théâtre du Gymnase, à Paris. À la musique, ce sera la Canadienne Mélissa Laveau qui nous fera entendre le son des chansons traditionnelles d'Haïti du début du XXe siècle, prélude à son prochain album Radio Siwell. C'est une vie d'artiste sur France Culture et une vie qui apparemment commence dans le silence. Fait là que vous étiez un enfant silencieux.
Oui, j'étais un enfant très très silencieux, très observateur. J'avais l'impression d'avoir de très grands yeux. Parce que j'ai essayé de regarder le monde pour le saisir dans toute sa plénitude. Et en même temps, j'avais les oreilles tendues comme des tambours pour essayer d'entendre le monde, le chant du monde, les personnages, les gens, les histoires, les contes que me racontait ma grand-tante qui me faisait partir vers un monde merveilleux. C'était la seule télévision qu'on avait, hein. C'était le seul cinéma, c'était ma tante.
Est-ce que vous étiez ce bon élève qui était quand même ami avec les cancres ?
Oui, oui, oui. Après, quand je suis rentré à l'école, j'étais un très bon élève tout de suite. Parce que pour moi, l'école était un émerveillement. On passait, c'est comme Internet aujourd'hui, on passait de la géographie à l'histoire, on passait à la mythologie grecque, à la mythologie latine, on passait dans l'histoire de France, l'histoire du monde, les fleuves, les rivières, les oiseaux. Et donc, j'adorais l'école. Et j'étais automatiquement un premier de la classe. Mais comme j'ai appris petit à petit à me raconter, grâce au film de Charlie Chaplin, à raconter des histoires, à les mettre en scène, de façon dans la tête. Et à partir de là, je commençais à être un petit voyou sympathique, entre guillemets. J'étais tout le temps avec les cancres. J'étais pas du tout en première ligne en classe. J'étais le premier de la classe qui était avec les cancres. Je faisais même les devoirs des cancres, des fois. Je faisais des rédactions. J'ai même fait une fois une rédaction à un cancre. Et il a eu 18 sur 20. Et moi, je n'ai eu que 14. Donc, parce que les cancres avaient de l'imagination. C'est des petits malins, c'est des raconteurs d'histoires, c'est des bluffeurs. Donc j'aimais beaucoup ça, voilà.
Il n'est que rarement offert aux hommes de voir naître un art. Cette fortune a été proposée pourtant à notre époque qui a vu naître, grandir, s'épanouir le cinéma. Les acclamations, monsieur, que vous venez de recevoir de cette assemblée montre que vous avez été l'un des grands réalisateurs de cet art et le plus grand acteur qui l'ait révélé. Mais je crois que ça ne suffit pas et que pour les hommes que vous avez entraînés dans le parcours dur de ce siècle, vous avez représenté, vous avez apporté quelque chose de supplémentaire et d'intime, une image d'eux-mêmes, et à cette image vous avez d'abord donné un nom, Charlot. Cette extraordinaire popularité que vous avez reçue, cette intense familiarité que vous avez obtenue, s'explique, je pense, par cette communication qui a fait que chacun, qui n'était pas tout à fait vous-même, retrouvait dans votre personnage une part de l'homme de toujours dans sa nature et une part de l'homme d'aujourd'hui dans sa condition. Nous savons que vous avez choisi pour vous exprimer le rire. Mais nous savons aussi en France, notre pays a vu naître Molière, que le rire a beaucoup de formes et exprime beaucoup de sentiments. C'est d'abord souvent une réaction contre la sottise des hommes et l'imperfection des sociétés qu'ils construisent. C'est souvent une réaction contre la méchanceté des êtres, l'indifférence des choses ou la malignité du sort. Votre rire est-il amer? Votre vagabond, je pense, n'est jamais pleinement heureux, mais il me semble qu'avec une égale conviction, il emporte toujours un espoir de bonheur.
On était en 1971 et Jacques Duhamel remettait la Légion d'honneur à Charlie Chaplin. Est-ce que le rire qu'il décrit, vous vous retrouvez là-dedans?
Je le retrouve totalement. Je crois que le rire est une façon de reconnaître tout de suite l'imbécilité du monde, de reconnaître le ridicule des situations. C'est tout de suite une façon de sonder le ridicule et de le transformer ensuite pour le montrer, pour qu'il soit vu par un grand nombre de monde. Le rire est une suite d'accidents. C'est les accidents qui arrivent entre ce qu'on a envie et ce qui arrive avant d'atteindre son envie. Charlie Chaplin n'atteint jamais son but. Il tombe, il glisse, il coule. Et c'est un rire du désespoir parce qu'il y a, c'est toujours les thèmes universels, l'humour basé sur des thèmes universels. C'est la faim, la peur, la misère, l'appréhension, la méconnaissance. Et Charlie Chaplin, il passe du rire de la dictature contre la dictature pour ridiculiser le dictateur. À la fin, il a faim quand il mange sa chaussure avec les clous qui représentent des petits os qu'il suce. C'est extraordinaire. Quand il mange le gâteau de l'enfant qui est à l'épaule de sa maman, c'est extraordinaire. C'est toujours la solitude, la faim, le froid, la misère, la guerre aussi.
Et quand vous êtes enfant, à l'école primaire, comment vous le regardez?
Je le regardais comme un libérateur, il m'a libéré complètement. Parce que c'est comme si s'est échappé de moi quelque chose de fou. Et c'était formidable, c'était un moment de bonheur parce que c'est un cinéma qui a été construit dans un petit terrain de tennis juste à côté de l'école. Et ça appartenait à l'école. Donc on sortait de la classe et tous les jeudis avec 20 centimes, on allait voir 10 à 15 films muets, un long métrage, un dessin animé. Et dans la classe, il y avait le projectionniste, dans le cinéma, le projectionniste était au milieu de nous. Donc quand le film se brisait, quand le film se cassait, et on le voyait, il allumait le cinéma, et on le voyait sortir la colle, sortir les ciseaux, couper, donc on regardait faire, et puis il remettait le film dans les bobines, enfin dans la caméra, dans le projecteur. Du coup, c'est la magie de l'écran et la magie du celui qui fabrique, celui qui projette, se rejoignir, parce que c'était très étrange comment ce type, de façon artisanale, fabriquait des histoires avec ses mains et puis il remettait le film et hop, il éteint la lumière et de nouveau le film redémarre.
Il avait quelle place l'humour dans votre famille ? Parce que vous dites que votre père était autoritaire, mais qu'il avait cet humour,
oui.
Et vous décrivez votre mère comme un éclat de rire parfois.
Ah, ma mère est un éclat de rire incessant. Elle est toujours en train de blaguer, de taquiner les gens. C'est une conteuse absolument inouïe. Elle a une mémoire d'éléphant, donc elle se souvient de toutes les anecdotes qui lui sont arrivées, les situations dans lesquelles elle était. Mais c'est surtout une farceuse, quoi. C'est une grande, grande rigolote. Elle organise des fêtes à la maison, le thé, le café, tout ça, juste pour le plaisir de raconter. Et d'écouter aussi, parce que elle était très, très écouteuse, entre guillemets. Très écouteuse, elle adorait les gens, elle aimait, les gens la faisaient rire.
Et c'était en quelle langue? Elle riait en berbère.
En berbère. Elle riait en berbère.
C'est un chant berbère, par Taous Amrouche.
Oui, qui donne la chair de poule.
C'est une langue que vous partagez tous les deux, Samia et Méziane. Comte de Boudherbala, parmi toutes vos langues, il y a le berbère.
Il n'y en a pas tant que ça. le berbère, c'est la langue maternelle, donc la langue des parents. Et moi, paradoxalement, mes parents, ils parlaient berbère kabyle entre eux pour pas qu'on comprenne. Donc moi, j'ai fait un retour vers la langue vers mes 18, 19, 20 ans. Et j'ai pris des cours de kabyle à la fac de Saint-Denis à Paris 8. Donc, et après, en retournant en Algérie, comme ça directement, en pratiquant avec les gens qui se moquaient bien de moi au pays. Mais c'est une langue qui est spéciale parce que c'est un vecteur aussi pour justement, comme disait Mohan tout à l'heure, pour raconter plein d'histoires. Parce que nous, c'est la tradition, c'est l'oralité.
C'est l'oralité.
Donc voilà, après, à moins de maîtriser le tifinagh, le berbère écrit, mais c'est spécifiquement oral, le kabyle.
On a été bercés, nourris par la musique de cette langue, avec des histoires absolument extraordinaires. Moi, j'ai eu l'apprentissage de la nature quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'était par ma grande tante, parce que ma mère s'occupait des autres enfants. Mais c'était une grande conteuse. Quand j'entends Taous Amrouche chanter, j'ai l'impression d'entendre ma tante raconter des histoires. Et donc, elle m'expliquait toute la nature, ce que les oiseaux, comment ils viennent, d'où ils viennent, enfin, toute la mythologie de la nature. Quoi. Et donc, je garde ça comme un cocon précieux.
Et ça ressemble à quoi si vous parlez berbère entre vous? Vous parlez parfois tous les deux ensemble cette langue-là
ou pas? Parce qu'on est francophones tous les deux.
Et à ce moment-là, ça représentait quoi le français? Parce qu'à 8-9 ans, c'est déjà presque tard pour se dire tiens, on va penser, apprendre, étudier dans une autre langue.
Oui, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, je suis né dans le berbère, du berbère. Je ne savais pas que le monde existait en dehors de la géographie de mon village. Je pensais que de l'autre côté, c'était la fin du monde de tous les côtés. Et puis, je découvre qu'il y a d'autres langues, d'autres gens. Je ne comprends pas qui est arabe, qui est français, qui est pourquoi ils sont noirs, pourquoi en fait c'est des tirailleurs sénégalais. Comme il peut y avoir des tirailleurs algériens au Sénégal, et qu'il y aurait un petit sénégalais qui verrait venir des blancs dans son village. C'est l'étonnement, c'est le surgissement dans ce lieu intime de choses absolument inconnues que je n'imaginais pas du tout, et qui m'étonne tout le temps. Et puis ensuite, on part à Alger, dans la ville, et là, je découvre que les gens parlent l'arabe, c'est pas la même langue que la mienne.
Et pourquoi la langue de l'écriture, c'est le français?
Ben parce qu'on était sous la colonisation française, et donc l'école était française. La langue arabe dialectale de l'époque, avant l'arrivée du classique à l'indépendance, était interdite d'enseignement, et le berbère aussi. Et ensuite, quand on est passé à l'indépendance, l'arabe est devenu la langue nationale. Et là, le pouvoir qui a repris après a dit que le berbère était interdit. C'est-à-dire, chacun interdit ce qu'il peut, quoi.
Je suis l'enfant de trois langues. Une héritée, l'autre imposée et l'autre découverte. Celle qui a été hérité, c'est la langue algérienne, c'est l'algérien. C'est pas un dialecte, c'est une langue pour moi.
Mais pourquoi?
Parce que c'est la langue de ma mère, la langue de mes parents, de mes grands-parents, c'est la langue de ma vie, c'est la langue du réel, c'est ma langue en tant qu'algérien. Je sais qu'on la qualifie d'arabe dialectal, je déteste ça. Et je sais que...
C'est une langue à part entière pour vous.
Qui n'a pas le pouvoir pour le moment. C'est comme lorsque le statut du français au 14e, 15e siècle face au latin. On a, et puis en face, il y a la deuxième langue, c'est l'arabe classique, la langue du clergé, ou la langue du clergé qui soit politique ou religieux. C'était la langue de l'école, c'était la langue de la contrainte, c'était la langue qui a été imposée. C'était la langue avec laquelle je me suis réconcilié des années plus tard, en découvrant les grands textes des grands penseurs, philosophes, religieux, mystiques, arabes ou musulmans. Et puis, il y a la troisième langue, c'est le français que j'ai un rapport d'autodidacte avec le français. C'est une langue que j'ai commencé à lire seul. Et à déchiffrer seul. C'est une aventure à part. Mais c'est vrai que le français est une langue érotique pour moi. Je l'avoue, les premiers romans policiers, je les avais lus ou j'ai essayé de les déchiffrer parce qu'il y avait dedans des passages érotiques. Pour un enfant que j'étais dans un village à l'époque de l'apogée du puritanisme socialiste et conservateur, c'était extraordinaire de trouver des passages érotiques. Et je me suis mis à lire et à déchiffrer quelque part pour déshabiller la femme, pour voir son corps, pour pouvoir... C'est un acte de voyeurisme quelque part, mais cette langue, je l'ai apprise pour pouvoir lire ce qui n'était pas possible de lire ailleurs. Les passages érotiques, le reste du monde, échapper un petit peu à l'oppression d'être un enfant, un écolier dans un village où il n'y avait absolument aucun loisir possible. Donc c'est aussi une langue que j'ai déchiffrée par intérêt, pas pour comprendre mon pays, je l'avoue, à l'époque, mais c'était pour mieux lui échapper.
C'était la voix de l'écrivain Kamel Daoud. Alors lui, c'est la génération d'après où justement l'arabe a été imposé ensuite à l'école et il a appris le français par lui-même. Mais je trouvais ça drôle qu'il parle de langue érotique ou en tout cas que ça lui a donné accès à des pages érotiques ou à d'autres choses. Et vous avez l'impression que ça vous a donné accès à quoi ces différentes langues? Parce que
nous, on nous a ramené d'un seul coup en 1965 ou 66, avec un décret présidentiel, une langue dogmatique, une langue de colloque, une langue pour faire des conférences, qui a été ramenée du Moyen-Orient et qui a été, qu'on a essayé de plaquer en Algérie d'un seul coup à toutes les générations. Hein. On avait 13-14 ans et puis on a entendu une langue bizarre venue d'un autre monde et dont on comprenait pas un seul mot. Et donc on est devenu réfractaire à cette langue dès le début. Ce qui n'est pas le même cas que pour Kamel Daoud, qui lui sa génération est arrivée avec cet arabe-là qui s'est déjà installé.
Et quand vous êtes à l'école d'art dramatique d'Alger, que vous avez 18, 19, 20 ans, oui. C'est à ce moment-là où on ne trouve plus les mêmes livres dans les librairies, où
oui,
l'arabisation a fait que ça a vidé des rayons.
En fait, c'est légèrement plus tard, l'absence des livres, du cinéma, de la musique, du théâtre aussi, qui venait du monde entier avant, hein, jusqu'en 1974. On avait les bibliothèques pleines de livres du monde entier, des films, etc. À partir de 1974-1975, là, Le pays s'est enfermé sur lui-même comme une huître. Et l'Occident, c'est le diable, c'est l'impérialisme de partout. Donc sa culture est impérialiste.
Et ça veut dire quoi quand on devient acteur d'État à cette époque-là?
Ça veut dire qu'il faut... D'abord, on est obligé de jouer en arabe classique. Mais on apprenait par cœur des textes qu'on ne comprenait pas. Donc on jouait, pas toujours, parce que des fois on jouait en arabe dialectal, en algérien, comme disait Kamel Daoud, que je reprends à moi, que je comprends, je dis moi aussi, je dis l'algérien. Et donc on jouait parfois dans une langue qu'on écrivait, parfois en phonétique française en dessous de la phrase, de la réplique en arabe. On écrivait en phonétique française pour pouvoir lire le texte. Mais surtout, on écrivait des pièces collectives ou d'auteurs aussi qui écrivent des pièces qui sont contre le système, contre la bureaucratie, contre l'administration, contre le système politique, avec des allusions en reprenant des thématiques orales à l'ancienne. C'est le djoha, quoi, c'est l'arlequin qui essaie de faire des allusions que les spectateurs comprennent très vite, hein, parce que c'est écrit de façon à ce que les spectateurs comprennent, mais que les censeurs ne comprennent pas.
Et ça, c'était l'époque où vous étiez directeur du théâtre de Tizi Ouzou?
Non,
petit peu plus tard? Non, c'était un peu avant?
C'était ça. J'étais directeur du théâtre de Tizi Ouzou pendant un an et demi. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes pour... J'essayais de monter des spectacles en Kabyle, mais en cachette. C'est-à-dire quand il y a des gens de l'État qui venaient... des responsables de l'État qui venaient pour assister aux premières ou à des répétitions, les comédiens jouaient en arabe. Je leur disais, vous jouez en arabe pendant qu'ils sont là. Donc, dès qu'ils sont partis, on se remettait à rejouer en kabyle. Et finalement, ils se sont rendus compte au bout d'un moment, parce que j'avais créé un lieu qui était très très convivial. Il y avait j'ai créé une bibliothèque, des cours de théâtre, on faisait du théâtre avec des enseignants français. Qui était en Algérie à l'époque, on les appelait des coopérants culturels, des enseignants. Et donc on montait des spectacles à deux, ensemble, et ça devenait un peu subversif. Donc là, ils ont commencé à me serrer, à me menacer à l'époque, déjà en 77, 78. Et en 79, je suis parti, j'ai quitté le pays parce que ça s'appauvrissait énormément sur le plan culturel. Et puis, je n'arrivais plus à aller jusqu'au bout de mes projets. Donc, je suis parti au Canada pour 3 ans.
Votre famille, Samy Amézian, vient aussi de Tizi Ouzou?
Oui, un petit village, enfin, deux petits villages à côté de Tizi Ouzou, donc quelques kilomètres. Et bon, ils sont arrivés pendant la guerre d'Algérie, donc c'est... c'est complètement différent.
Fréquenté le théâtre de...
Pas sûr, parce que bon, les parents sont arrivés très tôt, enfin assez jeunes. Donc, et eux, par contre, ils ne parlent pas du tout arabe, ils ne parlent que kabyle. Donc, il y a eu des vagues d'immigration. C'est vrai que chacun a un rapport spécifique avec les trois langues, que ce soit le français, le kabyle et l'algérien, donc
oui,
et même l'arabe
littéraire. Tes parents sont venus directement de Kabylie en France.
Ouais, ouais,
ils sont pas passés par la langue arabe.
Non, ils sont passés directement du village à la banlieue parisienne. Donc donc nous, après moi, paradoxalement, moi j'ai fait le contraire. Donc j'ai pur produit entre guillemets français, retour à la culture kabyle et aussi retour à la culture, on va dire, arabe par le biais de l'équipe d'Algérie de basket. Quand moi j'ai eu ma première sélection à 20 ans et je suis arrivé en Algérie complètement acculturé entre guillemets et face à des situations de quiproquo culturel où tout le monde se foutait un peu de ma gueule, et donc j'étais obligé de réapprendre assez rapidement la langue pour se débrouiller, quoi.
C'était quoi le quiproquo?
Bah, le quiproquo, c'est déjà quand vous maîtrisez pas une langue, forcément, vous êtes dans une équipe qui doit représenter un pays où on parle la majorité arabe, l'algérien, donc vous êtes censé représenter ce pays, donc moi j'étais une espèce d'escroquerie j'étais sauvé que par le sport, ce qui est un peu le langage universel. Et donc voilà, il fallait feinter un petit peu, donc j'ai réussi à feinter jusqu'à un moment où j'ai été démasqué. C'est assez spécial.
Ouais.
Ce sont aussi des chants résistants. La Canadienne Mélissa Lavaux s'est plongée dans le répertoire traditionnel haïtien, les chants qui ont marqué la période de l'occupation américaine 1915-1934.
Je suis Mélissa Lavaux, vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Thank you. conseil, j'ai t'écouter. Tu fille qui pas grand bon sage bois, j'ai t'écouté. Tu fille qui pas même même langage, j'ai ta caille maman. Angelina, Angelina, j'ai ta caille maman. J'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman. Angelina, papa moi désagrément. J'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman. Angelina, papa moi désagrément. J'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman. Angelina, Angelina, j'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman, j'ai ta caille maman. Angelina, papa moins désagrément. Angelina, j'ai ta caille maman.
Voilà ce qui peut régler les problèmes. Ils ne les régleront pas par un tour de pas magiquement, mais enfin, ils ouvriront la voie.
Vous voulez une sorte de glasnost
Exactement, oui.
Et est-ce que c'est possible aujourd'hui de rétablir la transparence et la démocratie en Algérie? Comment faire?
Personnellement, je pense que ceux qui disent que les peuples du tiers-monde n'ont pas droit à ça parce qu'ils n'ont pas, sont pas évolués ou parce que encore une vision, je m'excuse, un peu paternaliste. Les besoins, les hommes du tiers-monde, les pays du tiers-monde ont un besoin urgent de transparence et d'un minimum de démocratie, d'espace où l'on puisse s'exprimer.
Comment voyez-vous l'avenir immédiat?
Je le vois sombre, l'avenir immédiat. Je vois des chars qui, vous savez, l'ordre règne, comme on dit, à Alger, au moment même où le monde entier a soif de liberté. Voyez, hier, je souhaite que nous fassions comme les Chiliens, que nous aussi, nous nous débarrassions de nos pinochés, si c'est possible, par voie de vote. Mais si on nous offre pas cette possibilité, qu'avons-nous à ça? C'est de descendre dans la rue, c'est de prendre des pierres, comme dans l'intifada, chez les Palestiniens, et de faire partir ce régime qui est capable d'envoyer contre son peuple des soldats, des chars, et d'envoyer d'utiliser le bras séculier sans hésiter.
Vous l'avez vécu comment, Félag, ce mois d'octobre 88? Est-ce que vous étiez de retour à Alger après le Canada?
Oui, après le Canada, je suis revenu en France d'abord, en 82, je suis resté 4 ans à Paris, fin 85 je suis rentré en Algérie, j'ai repris mon travail de comédien au Théâtre National d'Alger, et on était en train de tourner un film à 50 km d'Alger, à Blida, au moment où les événements du 5 octobre avaient commencé, et tous les matins, on traversait les barricades avec les pneus qui prenaient feu, avec les chars qui arrivaient, etc. Donc ça s'est passé tellement vite. Mais à l'époque...
Ça représentait quoi comme espoir à ce moment-là pour vous?
Comment?
Ça représentait quoi comme espoir?
On a vécu 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans assez formidables, parce que c'était en même temps ça faisait peur, mais en même temps c'était une ouverture politique, une ouverture artistique formidable. C'est comme ça que moi et plein d'autres, les journalistes, la presse, les partis politiques se sont entrés dans la brèche entre guillemets démocratique qui a eu lieu après 88. Et c'est grâce à ça que j'ai créé mes spectacles personnellement. Et c'est grâce à ça que j'ai pu dire ce que j'ai pu dire que je ne pouvais pas dire avant 88. Comme le théâtre était assez muselé, la radio c'était pareil, c'était que des trucs de propagande. Assez ennuyeux, assez terrifiant. Donc c'était une période de grand espoir.
Et vous disiez quoi que vous ne disiez pas avant?
Tout, sur tout ce qui se passait sur le plan politique, sur les envies du peuple, sur on était contre la dictature du parti unique, contre la censure, contre la barbarie, la torture qui ont eu lieu pendant les événements du 5 octobre 88, qui a fait quand même entre 500 et 600 morts.
Et c'était qui les spectateurs en Algérie? Parce que vous disiez, il y avait un tiers de fans, un tiers de prudes et un tiers d'opposants. Est-ce que c'est vrai?
Oui, parce que c'est vrai, oui. Parce que les gens, même ceux qui étaient prudes, même ceux qui étaient contre, étaient quand même intéressés par cette parole nouvelle. Cette parole nouvelle qui est dite en plus avec la langue algérienne. C'est-à-dire, je mélangeais les trois langues. C'était la première fois, alors que jusque-là, on jouait, le théâtre était assez, excusez-moi le terme, assez chiant, à cause de cet arabe, qui n'a pas d'imaginaire. Ce sont des mots. Il y a pas de sensation autour. Il y a pas de chair. Il y a qu'un squelette. Et là, tout d'un coup, moi, je reprends j'avais pris la langue de la rue, la langue du marché, de la rue, du café, du travail, de la famille. Et j'ai commencé à jouer avec ça. Donc, il y a ceux qui sont, qui étaient totalement ouverts à ça, qui étaient heureux. Les autres, ça les faisait rire quand même sous cap, mais ça les libérait. Hein. Ils aimaient bien ça, au fond. Voilà.
Est-ce que vous auriez imaginé, j'imagine pas, mais les années qui suivent, et de voir justement partir à cause de ces mêmes spectacles que ces années-là vous ont permis de faire, de créer?
Je suis parti un peu comme tout le monde. Vous savez, il y a des centaines de milliers de gens qui sont partis à cette époque. Vous savez que à Montréal aujourd'hui, il y a pratiquement 70 000 Algériens. Il y en avait 2 000 dans tout le Canada en 85. En France, il y en a des centaines de milliers qui sont venus s'installer ici. Il y a eu 200 000 morts, entre 150 et 200 000 morts. Donc moi, je m'en suis assez bien sorti, donc c'est indécent de ma part de parler à la limite de moi, quoi. Parce que moi, j'ai des amis, des gens de la famille, des gens des gens du pays. C'est quelque part quelque chose en moi qui est mort avec ces 200 000 personnes qui ont disparu, et plus des gens qui ont disparu, plus ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu tout espoir. Le pays a complètement été mis à genoux sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan à tous les niveaux. Donc il y a une partie de moi qui a disparu avec ça. Donc je ne suis pas vraiment complètement vivant. Voilà.
Forcément, c'est quelque chose qui nous touche dans notre façon d'appréhender aussi l'humour, je pense. Je pense que c'est... Bon, après, Mohand, il veut pas trop le dire, mais bon, c'était quelqu'un qui a réussi à fédérer énormément en Algérie, enfin, qui fédère encore énormément, parce que, voilà, tout parti confondu, il a réussi à parler à tout le monde. Donc, il a réussi encore à parler à tout le monde. Donc, c'est compliqué de décrire un petit peu ces situations, parce qu'on est un peu aussi dans le... rien que le fait d'en parler, ça nous touche. On replonge là-dedans, mais c'est là où aussi le rire arrive à nous sauver de situations d'extrême angoisse.
Complètement.
Mais bon, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est dans les interviews... On me pose souvent la question, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est le premier spectacle de Monsieur Fellag, George Jurassic Bled, qui arrive justement à cette période compliquée où il arrive à sortir des situations qui sont risibles, mais qui sont aussi dramatiques. Donc, c'est là où l'humour algérien, il a une spécificité, je trouve. Bon, après, on est parti loin de la première question, mais on a
fait
une grande,
digression. Ça a commencé par « Je ne sais pas pourquoi chez nous, en Algérie, aucune mayonnaise ne prend, rien ne marche, rien ne tient, rien ne dure, tout coule. Dans le monde entier, on dit, et c'est devenu proverbial, quand un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte, et nous, quand on arrive au fond, on creuse. » Qu'est-ce que ça a changé, justement, dans l'écriture et dans l'humour, puisque vous dites que c'est forcément une époque aussi marqueur?
Ce type de réplique, c'est tout à fait les répliques qu'on peut entendre dans les cafés, dans les rues d'Algérie, dans les bus. Je crois que à chaque fois que les peuples ont été désespérés, ils ont inventé un humour qui les tient, qui les garde vivants.
Je pense à cette histoire dont vous étiez servi aussi à la fin des années 80, cette rumeur du bateau australien.
Oui, c'est totalement surréaliste.
Qui paraît tellement fou.
C'est complètement fou. Une rumeur avait couru. C'était l'époque des rumeurs, parce que ça se passait en 87, avant les événements de 88. Donc on avait lancé la rumeur comme quoi, n'importe quelle rumeur, il y avait un vide total. Du coup, n'importe quelle petite rumeur de rien du tout lancée dans un café pour rire se transformait en une chose vraie qui emportait tout le peuple dans une frénésie une frénésie totale. Donc on a raconté qu'il y avait l'Australie avait décidé d'importer des immigrés algériens, donc ils allaient envoyer des bateaux, étaient tous ceux qui montrent là-dedans et on leur donnera des papiers, ils arrivent des maisons, de la terre, du travail, des écoles, etc., etc. Et ben, c'est parti comme ça. Et on avait fini par 2 000-3 000 personnes qui faisaient la queue à l'ambassade d'Australie à Alger. Et moi, quand j'ai écrit le spectacle Un bateau pour l'Australie, juste pour l'anecdote, j'avais fait ce spectacle, la première version algérienne là-bas. Et dans le journal, il y avait un encart publicitaire pour le spectacle. C'est les dernières pour le bateau pour l'Australie. Et là, il y avait des gens qui réservaient. Ils disent combien on vous doit, on vous envoie un chèque. Ils disent, oh, ça vous fait 100 dinars. Ils disent, comment ça 100 dinars? C'est 100 dinars d'ici jusqu'en Australie. Il dit, comment ça d'ici en Australie? Non, c'est 100 dinars le billet pour voir le spectacle. Oui, ça continue. Et le mec, il a commencé à hurler, à insulter l'opératrice en raccrochant. Donc, la nature ayant horreur du vide, dès qu'il y a une allumette qui s'allume, c'est l'incendie.
En même temps, Alger, et cette Alger merveilleuse, pour ça que cette ville, c'est ma passion, hein. C'est vraiment ma passion, parce que c'est le soleil, c'est le mois de mars où on prend nos maillots de bain et on descend de la fac jusqu'au port. Au port, il y avait une petite barque, un monsieur qui nous prenait en barque et qui nous emmenait dans une piscine qui était au centre de la baie, qui s'appelait la piscine du Ridja. Il y avait toute la jeunesse d'Alger, du joli monde, des beaux garçons, des belles filles. Et c'était bien, c'était gai, il y avait de la musique, il y avait cette joie-là. Et puis, si on n'allait pas à la piscine, on allait dans le locaux du Frélimo. Parce que le représentant du Frélimo, Serge Vieira, était un copain. Donc on voyait un peu... Il y avait les hippies aussi, les hippies qui habitaient la rue Daguerre. Alors avec ma cousine et une amie, on sortait de notre maison bien sage, pieds nus, et on allait chez les hippies. On pensait que ça y est, on devenait hippies. Et on faisait 500 mètres pieds nus, quoi.
Thank you.
C'était la voix de la sociologue Fatma Ousseddik, qui habite à Alger, et qui parlait de ces années qu'on idéalise peut-être un peu, mais je ne sais pas si vous les avez connues, ces années 70 à Alger, où les gens allaient à la cinémathèque, où ils sortaient, fumaient à la cafétéria pour parler des films qu'ils venaient de voir, aller à la piscine. Une époque
complètement,
du mal à imaginer aujourd'hui.
Jusqu'aux années 73, 74, 75, à la limite. Après, ça a commencé à se serrer.
Vous avez eu aussi une période hippie pieds nus à Alger ?
Oui.
Ah oui.
Oui, tout à fait. On allait écouter des groupes rock, j'avais les cheveux jusque-là, même si mes cheveux n'étaient pas faits vraiment pour les garder très longs, mais j'avais une... C'est les, comme les Black Panthers, quoi.
Ah oui.
Oui, c'était juste, c'était très, très juste, ça.
On va écouter un nouveau morceau de Mélissa Lavaux, qui est toujours avec nous en studio. Et ça, c'est un morceau, pas du prochain album, mais un morceau qu'elle chante avec Julien Laureau, des concerts à deux.
Klaan Quando ho l'aura di quando ero bambino, dove sono adesso? Esistono ancora quella comicità violenta che dava sgomento, quel grande chiasso esilarante.
Où sont les clowns de mon enfance? Existe-t-il encore? Et le sens comique, violent, ce chahut hilarant. Ce chahut hilarant peut-il encore faire rire? Le monde dont il était l'expression n'existe plus. Les théâtres transformés en pistes, les décors lumineux, naïfs, la crédulité infantile du public n'existe plus. Le cirque aujourd'hui n'en est qu'un reste, subtil et déchirant.
Allora Gasparino, tu puoi partire stasera stessa.
Mi porto un po' di chiodi, un po' di tavole, lampade, c'ho tutto.
C'était un extrait des Clowns de Fellini. Félag, est-ce qu'on peut finir l'émission en marchant? Est-ce qu'on peut se lever?
Oui.
Parce qu'il paraît que vous dansez quand vous marchez. C'est pour vérifier. Alors, approchez-vous de moi. Le studio n'est pas très grand, mais on peut faire des tours de table. On peut aller jusque là-bas.
Oui. Alors.
Pourquoi les gens disent que vous dansez en marchant?
C'est mon corps qui est comme ça. C'est comme ça, vous voyez, je crois que j'ai une démarche. Les gens me disent, on a l'impression que tu danses quand tu marches. Et que dans les spectacles sur scène aussi, on a l'impression que je suis tout le temps sur mes jambes, comme si j'étais un danseur.
Est-ce que le clown, c'est une figure qui vous parle?
Oh, c'est une figure qui me parle énormément. J'adore les clowns. Samy est un très grand clown, est un magnifique clown. On t'a peut-être jamais dit ça, mais il est magnifique. Et depuis tout petit, depuis la première fois que j'ai vu des clowns, c'est un peu comme Chaplin. Le premier cirque où je suis entré, j'attendais que les clowns. Moi, je voulais voir que les clowns. Les lions, les éléphants, tout ça, même si on n'avait pas chez nous, hein, mais je m'en foutais complètement. Mais les clowns, ça, c'était génial. Et parce qu'ils ont un univers intérieur, ils ont une légèreté, ils ont une folie, et puis ils sont toujours dans le gag, ils mettent toute la tragédie de côté, et ils sont là que pour rire. Et rire de tout, même des choses les plus bêtes. Et puis ils ont des gueules magnifiques, ils ont des têtes extraordinaires.
Et c'est vrai, c'est vrai que c'est un adieu à ces histoires franco-algériennes, ce spectacle Blade Runner.
Oui, ça va être un adieu à au one-man show tel que je le fais depuis 20 ans, depuis 30 ans maintenant même, sur les histoires franco-algériennes. Mais je vais aller vers d'autres horizons, des choses plus intimes, des choses plus... même si c'est lié à l'Algérie, à la France, mais ce sera peut-être du théâtre, au cinéma, la littérature.
La jardinerie.
Voilà, absolument, la jardinerie, j'adore ça aussi. Et me consacrer beaucoup à la jardinerie parce que depuis des années, je rêve de voir du temps pour faire du jardin parce que j'adore ça.
Et musicien, vous rêviez pas de devenir chanteur?
Non, ça, j'ai pas de voix pour chanter. Mais par contre, c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir été musicien pour être chanteur de Chabi Al-Jarwa. J'en ai souffert beaucoup. Je voulais apprendre déjà à 17-18 ans. Je voulais apprendre, mais j'avais pas les moyens parce que je pouvais pas être comédien en même temps, aller au conservatoire de musique. Mais ça reste comme une blessure. Et c'est une de mes musiques préférées j'aime beaucoup toutes les musiques ancrées dans la terre, comme le fado, comme le rabbitico, le flamenco, le blues.
Vous êtes capable de fredonner un air Chabi?
Oui, bien sûr, ben oui, bien sûr. Le hammam li rabbitou mchaliya ma bqa li nsma' sawtou fi rsami. Voilà.
Ça y est, c'est pas perdu.
C'est pas perdu. Vous savez, il y a des chants dans le Chabi, il y a des chants qui durent une heure et demie. Quand les chanteurs Chabi chantent, la fête peut durer jusqu'à 4 heures du matin. Et ils boivent juste un verre d'eau, ils fument un petit joint. mais ils ont une énergie absolument folle, avec des textes d'une beauté tout à fait inouïe, c'est vertigineux. Et dans la musique, d'une richesse inouïe, et dans les textes qui sont d'une beauté sublime.
Voilà, on a la vie devant nous, il est presque minuit. Oui. C'est parti jusqu'à 4h du matin.
C'est parti jusqu'à 4h du matin. Je sors mon mandole. Samy, tu prends ton violon.
C'est parti.
C'est parti.
Birds are calling, skunks are crawling, wagging their tails for love. Spring is here, whales are churning, worms are squirming, wagging their tails for love. What is this thing on which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, 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 love.
Avant la nuit, je dis merci à Inès De Bruyne, Lucie Spindler, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et merci à la technique à Pierrick Charles et Pierre Costard.